des enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
Le poids des mouvements, partis et gouvernements antidémocratiques dans l'Union européenne.
Voilà, à propos de notre partenariat avec la revue internationale et stratégique de l'IRIS, donc l'Institut des relations internationales et stratégiques, c'est le numéro de l'été 2007, il est consacré, alors je vais donner tout simplement le titre, Contestation démocratique au pluriel, désordre international, point d'interrogation sous la direction d'Olivier de France et de Marc Verzeroli. Alors l'un des contributeurs est avec nous, Bastien Nivet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé donc à Léonard de Vinci. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Union européenne est de plus en plus percluse de contradictions, notamment dans ce qui est son cœur de métier, à savoir la promotion de la démocratie. Alors, une succession d'évolutions l'illustre. Ce déficit démocratique est patent. On avait fait revoter les peuples par référendum jusqu'à obtenir la bonne réponse. La complexité bureaucratique des décisions, les régionalismes indépendantistes, on vient d'en parler ici même il y a deux jours, lundi dernier, les populismes d'ailleurs diversifiés, les États membres ostensiblement non démocratiques, on pense tout de suite à la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Croatie, qui n'auraient même plus le droit d'être des pays candidats, la montée régulière des extrêmes droites, et puis on peut multiplier évidemment les exemples compte tenu du contexte international qui est très lourd. Je ne sais pas si vous utilisez l'expression Bastien Nivet, c'est au fond l'Union européenne est en porte-à-faux avec elle-même. Si vous acceptez cette expression, elle est mal à l'aise.
Ce qui est particulier effectivement pour l'Union européenne, c'est qu'elle se retrouve confrontée à une série de défis politiques à la fois internes et externes qui la mettent en difficulté dans son rôle en matière de défense de certains droits, certaines valeurs et dans son fonctionnement. À l'intérieur de ses frontières, l'Union européenne est confrontée, vous l'avez bien dit, à la fois des formes de populisme, une fois de plus au pluriel, hein, la notion de populisme mériterait de très longs développements.
C'est
on va l'employer avec beaucoup de prudence ce matin. Et puis aussi ce que Farid Zakaria avait appelé des démocraties illibérales, c'est-à-dire des régimes illibérales.
Mais je crois que vous l'aviez bien dit, mais c'est un néologisme.
Démocratie illibérale, c'est important, c'est-à-dire des régimes qui respectent la forme démocratique électorale, mais qui ensuite se livrent à des atteintes aux libertés individuelles, aux droits de l'homme, aux règles démocratiques, etc. Et tout cela se développe au sein de l'Union européenne, mettant en cause un peu son modèle démocratique et institutionnel. Et ce qui est particulier pour les institutions de l'Union européenne, comme la Commission européenne par exemple, c'est qu'elle se retrouve aujourd'hui parfois dans un rôle de rappel à l'ordre, de défense de certaines valeurs démocratiques, de certaines règles en matière d'état de droit, alors qu'elle-même est souvent mise en cause pour son manque ou ses limites en matière de légitimité, de représentativité démocratique. Et là, il y a un piège un petit peu qui se referme, il y a un cercle un petit peu vicié, donc vous parler de porte-à-faux pour la Commission européenne, qui à la fois ne peut rester insensible et inactive face à des reflux, des reculs démocratiques, ce que j'appelle un moment réactionnaire dans l'Union européenne et plus largement dans le monde, mais qui en même temps, si elle le fait de façon trop vive, trop forte, eh bien risque d'aviver ces contestations de ce qu'elle est, de ce qu'elle incarne en tant que système politique et institutionnel. Et là, il y a une situation, une configuration très difficile à gérer sur le plan juridique, politique et institutionnel pour l'Union européenne.
C'est le titre de votre contribution, de l'Union européenne à l'heure du moment des réactionnaires, moment réactionnaire entre guillemets. On a l'impression que la Commission se met dans une situation détestable par rapport à elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'ose pas sanctionner, elle le fait avec beaucoup de prudence, elle a peur effectivement, comme vous le dites, de radicaliser les mouvements anti-européens, il faut bien le dire, qui sont au pouvoir en Pologne, qui sont au pouvoir en Hongrie, et finalement le ver est dans le fruit, elle n'ose pas. Et par exemple, il faut bien le dire, les pays, on va dire, voyous, les pays déviants, eux-mêmes, c'est un peu une équipe de bras cassés, mais qui s'entraident, parce que déjà la Hongrie a dit, si on sanctionne la Pologne, notamment les pires des sanctions pour pays déviants, c'est la suspension des droits de vote, ben, on votera contre. Alors on est là, comme vous dites, c'est une sorte de piège, et la Commission semble, elle dit des choses, elle met en œuvre un certain nombre de mesures, mais c'est d'une façon extrêmement précautionneuse et ce qui va se retourner contre elle un jour, je pense.
Il faut se rappeler que jusqu'à une période récente, le scénario, la scénarisation de ce qui pouvait se produire si un État membre se mettait à dévier du corpus de règles démocratiques communes n'était pas prévu.
Le premier cas,
c'est l'arrivée dans une coalition en Autriche de Jörg Haider et du Parti de la Liberté en Autriche, qui avait tout d'un coup placé les Européens dans une configuration inédite. Que fait-on lorsqu'un État membre se met à sortir de ce que l'on considère comme nos règles, normes démocratiques. Plus récemment, est-ce qu'il peut un peu rappeler quelques souvenirs aux Français, la Commission avait lancé une procédure d'infraction dans la France de Sarkozy
contre les Roms,
à propos du traitement de la communauté rome. Aujourd'hui, il y a dans le traité de Lisbonne des dispositions qui permettent d'entamer des procédures. Mais dans ce cas-là, et vous l'avez bien rappelé, il faut une majorité de 4/5, je crois, des États membres pour enclencher sérieusement une procédure. C'est une procédure très lourde, très longue, et dans lesquelles les États membres sont à la fois jugés et partis. Et effectivement, il est assez peu probable, c'est une procédure très longue, très lourde, très compliquée, que l'on voit des États membres se punir les uns les autres, sauf si un État membre très isolé individuellement est mis en cause. Donc effectivement, c'est une situation extrêmement complexe et qui complique peut-être aussi non seulement la vie politique institutionnelle interne de l'Union européenne, mais aussi sa crédibilité et sa légitimité internationale. Parce que jusqu'à une période récente, il y avait une construction à la fois interne politique de l'Union européenne, mais aussi une projection dans sa politique étrangère comme une sorte de modèle destiné à exporter la démocratie, les droits de l'homme, etc. Et évidemment, ce rôle d'exportation de la démocratie, des droits de l'homme, des libertés individuelles, il est plus difficile à faire lorsque, à l'intérieur même de vos frontières, certains États membres portent atteinte à ces règles et à ces valeurs. Et dans nos relations avec des régimes comme les États-Unis de Trump, la Russie de Poutine ou la Turquie de Erdogan, d'éventuelles dérives démocratiques, refus démocratiques internes à l'Union européenne, évidemment, peuvent porter atteinte à la crédibilité de l'Union européenne dans sa politique extérieure.
Un exemple parmi d'autres, là aussi détestable, c'est la question de la Turquie. On l'a vu il y a quelques temps, pour avoir accueilli 1 100 000 officiellement en 2015 réfugiés en provenance essentiellement du Proche-Orient. L'Allemagne a poussé à demander à l'Union européenne de rouvrir des négociations avec la Turquie, et c'était dans le pire moment des dérives du régime Erdogan. Alors là, on est dans des contradictions, mais qui sont majeures. D'ailleurs, le président Erdogan devrait nous dire, mais vous-même, vous m'accusez de quelque chose que vous pratiquez.
Oui, et effectivement...
Il ne le dira jamais, évidemment.
Une fois de plus, on est dans un moment délicat où les tensions et les difficultés internes de l'Union européenne rejaillissent sur sa politique étrangère d'élargissement et réciproquement, effectivement.
Alors, je précise aussi, vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On est dans une situation extrêmement troublante. C'est le fait que des pays membres ne pourraient plus être des pays candidats. Et ne répondent plus aux prérequis, ce qu'on appelle techniquement les accords de Copenhague de 1993, et à minima, parmi d'autres conditions, il y a l'état de droit, qui est ouvertement violé et défié par les dirigeants, certains dirigeants de l'Union européenne.
Oui, alors c'est aussi, là, pour l'instant on est très pessimiste, alors si on peut...
Oui,
si on
oui, veut oui il, y a, un tout non, il faut parler de relance dans ce cas-là, relance de l'Union européenne.
Rappeler quand même que l'Union européenne et puis la communauté européenne qui l'a précédée n'ont toujours intégré que des régimes démocratiques et respectant l'état de droit, contrairement à l'OTAN d'ailleurs, qui a pu compter en son sein la dictature des colonels en Grèce ou des régimes autoritaires en Turquie.
L'occupation de Chypre.
Dans le cas de l'Union européenne, le respect de la démocratie et de l'état de droit a toujours été une raison de l'accession à l'Union européenne. Ce qui était spécifique aussi, c'est que les élargissements de l'Union européenne, jusqu'aux élargissements récents, enfin les derniers en date en tout cas, à destination des pays d'Europe centrale et orientale, comme d'ailleurs les élargissements vers les pays méditerranéens dans les années 80, le pari était fait que l'entrée dans l'ensemble européen de ces jeunes démocraties allait les consolider. C'est-à-dire que ça allait renforcer, ancrer les consolidations, les transitions démocratiques et d'état de droit. L'image que nous renvoient aujourd'hui certains de nos partenaires européens, des pays comme la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, c'est que cet ancrage démocratique, finalement, il est relativement fragile. Et que, contrairement à ce qui s'est passé avec les élargissements vers les pays méditerranéens dans les années 80, il y a là un ancrage démocratique, une européanisation démocratique qui n'est pas tout à fait au bout, qui visiblement n'a pas été complète.
Et qui est le fait de nouveaux membres de l'Union européenne.
Qui, dans le cas présent, concerne des membres récents de l'Union européenne, qui ont rejoint cette Union européenne dans un contexte différent des États fondateurs et des élargissements précédents, dans un contexte post-guerre froide, où finalement l'accession à l'Union européenne était peut-être, chez certains de ces États-là, avant tout perçu pour ses dimensions économiques plutôt que politiques notamment, ce qui n'était pas forcément le cas de pays fondateurs de l'Union européenne.
Merci beaucoup, Bastien Nivet. Donc l'Union européenne à l'heure du moment réactionnaire entre guillemets, je rappelle que vous êtes professeur associé à l'école de management Léonard de Vinci, et la revue internationale et stratégique, c'est l'été 2017 en partenariat avec les enjeux internationaux. Émilie.
Merci Thierry Garcin, et merci à vous, Bastien Nivet, de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous en plateau.